والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخان الإسلام نو remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de reprendre donc ces programmes du mardi soir concernant la situation des croyants et des non-croyants, hein, également le jour des comptes, le jour de la résurrection. Et vous vous rappelez qu'avant les vacances, on pourrait appeler ça comme ça, les vacances de mai, on avait complété une catégorie de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour des comptes. C'est Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, cette personne dont le cœur est attaché aux mosquées. On avait, bi'idhnillah, longuement développé quel est l'amour que le croyant doit avoir pour une masjid. Cela ne se limite pas à la fréquentation d'un lieu de culte 5 fois par jour. Et pour comprendre l'attachement qu'un musulman doit avoir pour une mosquée, pour une masjid, il faut se référer aux pieux prédécesseurs, aux sahaba, aux tabi'in, aux générations qui étaient les plus proches des sahaba, et voir comment eux, ils aimaient la masjid. Quelle était la notion de hubbul masajid, la notion d'attachement aux mosquées, comment, en résumé, c'était des personnes qui ne rataient pour rien au monde, hein, une priant congrégation, pour rien au monde, un takbir oula, pour rien au monde, un premier rang, un premier saf. Ne faisait jamais passer le dunya ou quelque chose de personnel avant la religion d'Allah, bien sûr, mais on pourrait même dire avant même les choses qui ne sont pas obligatoires, les actions qui font partie de la perfection de la foi. Être présent au premier rang n'est pas obligatoire, on est tous d'accord, sinon on serait tous kafirs, moi en premier, qu'Allah nous pardonne. Si c'était un pilier de la religion, on aurait tous perdu ce pilier. C'est quelque chose de souhaitable. L'essentiel, ce que la personne accomplit, c'est salat. Maintenant, si elle le fait en congrégation, alhamdulillah. Si en plus de venir à la masjid, elle peut le faire au premier rang, takbir ou là, nourun ala nour, c'est la perfection de l'iman. Et les sahaba, eux, ils n'étaient pas juste en train de comparer le halal et le haram pour voir le strict minimum qu'ils doivent accomplir. Voilà ce qui est vraiment interdit, où il y a un ittifaq, où tout le monde est d'accord que c'est haram, et là ils ne le font pas. Ils allaient beaucoup plus loin. Ils recherchaient ce qui est obligatoire à la base, parce que Hadith Qudsi dit que la meilleure des choses qui permet aux croyants, aux croyantes, de se rapprocher d'Allah, ce sont les actions qu'Allah a rendues obligatoires. Et on avait expliqué d'ailleurs avec la salat, l'homme dont le cœur est attaché aux mosquées, que si quelqu'un vraiment il fait sa salat comme il le faut, avec les conditions, avec la dévotion, avec la concentration, avec la compréhension de ce qu'il lit, et qu'il comprend là, j'aime pas trop le mot philosophie, la hikmah, la sagesse, le maqsad, l'objectif qu'il y a dans les salat, un contrôle de soi, ses paroles, ses pensées, ses gestes, son regard, ce qu'il y a de le cœur également, et que l'objectif c'est « inna salat atanha anil fahsha wal munkar », que la salat théoriquement, je dis bien en théorie, chariatement on va dire, nous empêche normalement d'accomplir les péchés, de turpitude et du blâmable. C'est-à-dire théoriquement quelqu'un qui fait sa salat régulièrement, quand il sort de la masjid, il reste protégé. Quand on est dans la masjid, on est dans un milieu protégé, oui ou non? Oui. Quand on est dans la salat, on est dans une ibadah qui nous protège de même les wasawis ou shaitan. Parce que quand on commence par l'isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. D'accord? C'est une action qui nous relie directement avec Allah. Le cœur est relié avec Allah. C'est une action qui remplit nos cœurs de rahmah, de nour, la lumière d'Allah qui descend. Et c'est une action également qui nous permet de rester protégés, éloignés de shaitan, ne serait-ce pendant la période où on est dans la salah. La seule chose que shaitan peut nous faire accomplir comme péché dans la salat, dites-moi c'est quoi? La seule chose mauvaise qu'on peut faire dans la salat, c'est quoi? Exactement, barakallahu fik. C'est penser à autre chose. Est-ce que quelqu'un peut faire pire que ça? Dans la salat, on ne va pas regarder les choses, on ne va pas écouter, on ne va pas... La salat, c'est un milieu protégé. C'est une action qui protège le corps, protège les yeux, protège les oreilles, protège les pensées aussi, à la base. Hein, théoriquement, dans sa kamal, dans sa perfection. La pire des choses, une personne comme Moussalli, hein, quelqu'un qui prie peut faire, c'est penser à autre chose. Après bon, bien sûr, il y a le hadith qui dit celui qui vole dans la salat. Celui qui vole dans la salat, qu'est-ce qu'il fait? Détournement d'argent? Non. Détournement des takbirat ou des actions. Hadith dit celui qui détourne, celui qui vole dans la salat, c'est celui qui enchaîne, qui fait mal les gestuels de la salat. Il y avait une fois le prophète sallam voyait un sahaba qui priait et il a dit « Salli ». فإنك لم تصلي. Recommence ta prière, t'as pas prié. Sahaba, il recommence. Troisième dit, صلي فإنك لم تصلي. Refais ta prière, c'est pas bon. Troisième fois. À la fin, le Sahaba dit au prophète d'Allah, c'est comme ça que je prie. Je ne sais pas faire mieux que ça. Et le prophète Ali salat, okay, quand tu fais ta salat, fais en sorte qu'il y ait tama'nina, une quiétude, une sakina, il y ait un temps où chaque membre de ton corps se repose entre chaque gestuelle. Ça ne doit pas être un enchaînement. Bref, on pourrait dire que ça, c'est les manquements dans la salat. Mais mis à part ça, je fais ma salat, je suis protégé. Mais théoriquement, et j'aime plutôt dire chariatement parlant, quand je sors de la mosquée, de la masjid, je sors de ma salat, théoriquement, je dois rester protégé. Tanha anil fahsha'i wal munkar. Maintenant, si en sortant de la masjid ici, Montreuil ou Saint-Denis, peu importe, immédiatement, encore Montreuil, ça va, c'est gentil, mais Saint-Denis, vous tombez sur la rue Marshal Leclerc, samedi, salat al-Asr, vous voyez toutes les bombes humaines qu'il y a, et qu'on ne peut pas, on ne peut pas résister, ça veut dire que ma salat ne m'empêche pas du turpitude et du blâme. C'est bien un problème. C'est pas la salat qui ne marche plus de nos jours. Non. C'est ma relation avec Allah qui n'est pas correcte. Le débit, je sais pas, normalement on doit avoir 20 mégas, mais on n'a même pas un, je sais pas, un giga ou un kilo ou un milliméga, je sais pas quoi, rien. Cette connexion n'est pas faite. On expliquait encore hier ailleurs que ma salat al-Isha, là on va être tous d'accord, malheureusement, la salat al-Isha que j'ai fait, ou que Cheikh Shabir a fait, ou que n'importe quelle personne du Ned ou autre qui est présent, notre, on parle de nous tous, notre salat al-Isha, elle est composée de combien de raka'at? 4. La salat al-Isha d'Abu Bakr al-Siddiq est composée de combien de raka'at? 4, pareil. Mais est-ce qu'on peut comparer les deux? Hein? Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Qu'est-ce qui fait la différence? Même nombre, même unité de prière, même lecture. Il lit le Fatiha, je lis le Fatiha. Il lit un surat, on va dire un verset, trois versets ou plus, pareil. Même si je lis trois juz, trois, on va dire six para, hizb, et lui il lit, c'est Abou Bakr, il lit quelques versets, sa salat restera supérieure à la mienne. La différence c'est quoi? Ikhlas, quoi d'autre? Hein? L'endroit? Pas forcément. Qu'Abou Bakr lui fasse une salat en Chine ou à la Réunion ou en Afrique, taqwa. Le prophète Ali salat wa salam avait dit aux sahaba, à l'ensemble de sahaba, que Abou Bakr ne vous a pas dépassé bi kathratil a'mal, par beaucoup de choses, non, par beaucoup d'actions. C'est pas quantitatif. Parce que quantitatif, il y a des gens qui font beaucoup de choses. Subhanallah, celui qui me donne cet exemple. Allah, Allah, Allah. J'allais dire le doigt, que Allah vous accorde. Hein? Khalas, madame ne sera pas contente. Hur'ain. Et, subhanallah, Khawarij, oui, c'est exactement ce qu'on voulait dire. Khawarij, pour ça, me dit, si vous comparez vos prières, vos ibadas à le ibadah, ça vous dépasserait, mais amplement. On avait expliqué Ibn Abbas, il va voir les Khawarij, j'ai dit, j'ai vu des gens avec des signes de prosternation, avec des taches de prosternation sur les paumes de main et les genoux écorchés à force de faire Qiyamul Layl Tahajjud. Quand on s'approchait d'eux, on entendait comme un bourdonnement d'abeilles, essaim d'abeilles, comme ça, c'est quoi? Lecture du Coran, tout le monde est dans l'ibada. Des gens avec des vêtements rapiécés, vieillis, déchirés, zuhud, ascétisme, yam pudunia. Retirer pour le culte, pour l'adoration d'Allah, les visages fatigués, traces de fatigue. Pourquoi traces de fatigue? Qiyamul Layl, passe la nuit en adoration. Ajib. Et quand le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit que leurs actions dépassent les vôtres, il parle à qui là? Abou Bakr, Omar, Uthman, Ali. Il parle aux Sahaba. Alors imaginez, dites, mais est-ce que humainement c'est possible de faire plus d'actions que les Sahaba? Ces gens-là, ils l'ont fait. Mais le prophète me dit que ils quittent. Il dévie de la religion comme la flèche quitte l'arc. Khawarij, aqida, croyance pas bon. Donc en termes de quantité, on peut faire plus. Enfin nous non, mais c'est pas ce qui est regardé, c'est pas ce qui est analysé par Allah Azza wa Jal. Le prophète me dit, mais Abou Bakr vous a dépassé par quelque chose, waqara fi qalbi, quelque chose qui était dans son cœur. Quwwatul iman, force de la foi. Sacrifice, mujahada pour le din. Thani athnain idhuma fil ghar. Omar ibn al-Khattab dit qu'il y a deux actions. Ça, c'est des vieux, enfin, pas des vieux, c'est des programmes qu'on a déjà fait avant, qu'on répète parfois, mais c'est pour moi-même, pour nous tous, renforcer un petit peu, harrik, faire bouger un peu la foi. Omar ibn al-Khattab dit qu'il y a deux actions qu'Abou Bakr a fait. Un matin, un soir. Et ces deux actions-là, bah, ces deux actions. Regarde pas ces jeûnes, c'est-à-dire ces carèmes, ces salats, ces qiyamul layl, ces pleurs dans la salat. Non. Juste ces deux actions, ça, j'ai dit une expression en créole, ils mangent nous toutes. C'est-à-dire, c'est meilleur que Omar ou Ali Omar.
c'est meilleur que Omar ibn al-Khattab et toute la famille de Ali Omar, c'est-à-dire toute la famille de Omar ibn al-Khattab réunie en termes de récompense. Je répète, Abu Bakr a fait deux actions, c'est-à-dire un matin qu'il a fait, un soir qu'il a passé dans le dîn, ça vaut plus que toute ma vie de bonnes actions. Moi, Omar ibn al-Khattab, et mon fils Abdullah ibn Omar, etc., et mon épouse, et subhanallah, et mes enfants, etc., toute ma famille, ma tribu. Ce soir-là et ce matin, c'était quoi? C'est un, lorsque le prophète alayhi salatu wasallam fait le hijra, l'immigration, Abu Bakr est avec lui. Il se met devant, il se met derrière, à droite, à gauche. Il a peur que quelqu'un fasse du tort à un nabi, alayhi salatu wasallam, il le protège. Ça, mujahada pour le din. Et deuxièmement, c'est lors du, après le décès du prophète alayhi salatu wasallam, lorsque les sahaba étaient dans le chaos total. Même le plus fort, c'était qui? Le plus costaud, Omar. Celui qui faisait peur à tout le monde, Omar. Même Omar, tombé. Les genoux, il ne tient plus. Ça vous est peut-être arrivé, hein, des moments de choc, ou d'angoisse, ou je ne sais pas, la protège, on vous annonce la mort d'un proche. Vous êtes tellement affaibli que vos jambes ne vous tiennent plus. C'était comme ça, les sahaba. Il y en a qui étaient tombés carrément sur le sol, ils ne pouvaient plus se mettre debout, tellement ils étaient attristés par le décès du prophète alayhi salatu wasallam. Omar ibn al-Khattab ne pouvait plus bouger. Et qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui ose dire que Mohammed est mort, je le tue. C'est vraiment ces situations d'angoisse, spirale d'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer? L'homme qui a, subhanallah, on va dire qui a survécu, l'homme qui a émergé, celui qui avait une force de foi qui a dépassé tout le monde, et que c'est dans les moments difficiles qu'on voit quwwatul iman. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde est là. Dans Ramadan, tout le monde sera là, inshallah. Mais c'est quand il y a des moments de difficulté où la pratique du dîn devient difficile, c'est là qu'on voit quwwatul iman. Et là, Abu Bakr, il a su reprendre les rênes de la Ummah et provoquer, anticiper ce qui devait être fait tout de suite. Et faire en sorte que les musulmans se réveillent. Enterrer un Nabi, alayhi salatu wasallam. Priorité des priorités, trouver un khalifa. Immédiatement, faire le mashwara, shura, en tout le monde pour trouver qui va prendre les rênes de la Ummah pour continuer et respecter les engagements que le Prophète salam avait fait, l'armée de Oussama, etc., etc. Ce qu'il a fait, c'est unique pour la Ummah. Autrement, les gens auraient pu se laisser aller. Et vous savez, on était à une époque, et là aussi il faut comprendre quand les gens ils parlent du djihad, de la guerre sainte chez les musulmans. On est à une époque, tu fermes les yeux une seconde, tu as les PS et les Romains qui te rentrent dedans. Ils te tuent, ils t'égorgent, ils violent ta femme, ils réduisent tes enfants à l'esclavage. Le langage est cru, mais c'est comme ça. Dans toutes les civilisations, c'est comme ça. Si une population se permettait de rester inactif, inattentif quelques temps, il y a l'armée, les grands ennemis, c'était les Perses et les Romains. Et en plus, il y avait les tribus arabes, certains qui commençaient un petit peu à vaciller, ils ne voulaient plus payer la zakat, d'autres qui quittaient même la religion, on a les faux prophètes, c'est-à-dire fitna de tous les côtés. Les fitna que peut-être à notre époque, même on n'a pas. Il fallait quelqu'un de fort qui ramène la Ummah vers le droit chemin, Abu Bakr al-Siddiq. Donc, tout ça, pour revenir sur notre salat, elle est incomparable à la salat d'Abu Bakr al-Siddiq. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière sa salat, iman billah, il y a mujahada, sacrifice pour Allah, sacrifice la vie pour Allah. Pour ça, me dit que personne n'a aidé le dîn comme Abu Bakr. Et chaque personne qui nous a aidé financièrement, ils ont eu la compensation, sauf Abu Bakr. Ça, c'est pas possible. Sa récompense sera indallah, sera auprès d'Allah. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, cette salat, théoriquement, et chariatement parlant, elle doit nous permettre de rester protégés. Maintenant, avec tout ce qu'on a cité, à travers les récits des pieux prédécesseurs, les sahaba, etc., etc., comment même certains qui étaient malades, ils venaient à la salat, ils faisaient en sorte qu'on les accompagnait, mais jamais raté une salat, qu'Allah nous pardonne. Je parle pour moi en premier, mudhakara, parfois on a un petit programme en famille, allons manger un cookie halal, allons manger un petit glace halal, allons sortir, allons, on fait isha après. Allah musta'an. Et puis Shaitan dit, ça c'est le droit à la famille, hein, il faut également trouver le juste milieu, là wallah. Juste milieu, tu te gardes là, tu fais ça, t'en jamais, tu reprends ta famille, tu pars. Salat, congrégation, le jour de Qiyama, le musulman, le croyant va pleurer. Je ne parle pas celui qui n'a pas iman, ça c'est même pas besoin d'en parler, wallah musta'an. Les gens, ils vont pleurer pour avoir un, subhanallah, alhamdulillah. Ça, salat, il vaut 25 ou 27 fois plus que ce que tu fais chez toi. Remords, regret pour avoir manqué une salat en congrégation. Et celui qui était toute sa salat en congrégation, quand il va voir le rang de ceux qui étaient au premier saf, au premier takbir, il va penser comment j'ai pu laisser filer une telle occasion. Il y a des fois, Allah nous pardonne, hein, je pense que chacun se reconnaît à travers ce discours, et peut-être moi en premier. La salat, ici c'est qu'il y a Isha, 7h30. D'accord, 7h30, d'accord. Il y a des fois où on a déjà mangé 7h15. C'est fini. On est prêt. On peut faire les ablutions et venir depuis 7h20. Se dit que non, encore le temps. Non, encore le temps. Allons faire notre petit travail. Allons faire notre petit travail, vérifier mes mails, mes notifications, aller envoyer un message à un tel. Ah, 7h31. Vite, vite, vite. On fait les ablutions, on part, on arrive, on a le dernier rak'at. Ça, c'est un cas de figure, Wallah Moustan, classique, qui arrive très souvent. Alors, qu'est-ce qui nous coûte de donner 5 minutes de notre vie pour Allah? Sahaba, ils ont donné leur vie pour Allah. Et après, ils donnaient un peu de temps pour leurs proches. Qu'est-ce qui nous coûte de venir un peu plus tôt et, Inch'Allah, de faire la salat au premier rang, takbir ou là, comme on a appris. Inch'Allah, on fait le niyat. L'objectif, c'est ça, c'est que c'était de voir avant tout, parce que le hadith, les 7 catégories de personnes qui sont sous l'ombre du Kham d'Allah, c'est pas le but du majlis. Ça, c'est un point parmi le maudour, le grand sujet qu'on a commencé à aborder il y a quelque temps, c'est le mahshar, la résurrection. Les différentes catégories de personnes qui seront ressuscitées, comment ils seront ressuscités? Et vous rappelez qu'on avait vu avant les péchés et leurs conséquences. Vous rappelez, les péchés, chaque péché, on avait détaillé quelle sera leur conséquence au jour des comptes. Donc, théoriquement, ce hadith-là, on peut le citer une fois à basse. Mais pourquoi est-ce qu'on insiste jusqu'à en faire une thématique depuis plusieurs mois et que chaque catégorie, on en fait un sujet de réflexion, de discussion, parce que ce hadith, c'est le hadith de l'espoir. C'est le hadith du futur, ça. Ce hadith nous dit que le jour des comptes, ces gens-là, ce seront les meilleurs des hommes, les gens les plus heureux. Et tout le monde peut avoir sa place. Mis à part le premier, le roi qui est juste, mis à part ça, chaque action de ces 6 autres catégories sont accessibles. Donc c'est le hadith de l'espoir. On le cite, on l'écoute, mais le but c'est que je réfléchis. Comment mettre cette action en pratique? Comment développer les qualités de, et là, comme on avait vu avant, le jeune qui grandit de l'obéissance d'Allah. Comment faire en sorte que moi j'ai 20 ans, 30 ans, moins de 40 ans à peu près, je reste de l'obéissance d'Allah, je me donne du haram, je fais les bonnes actions. Comment faire en sorte que je peux avoir ma place sous l'ombre du trône d'Allah, que je sois moi aussi appelé? Parce que j'ai la ilaha illallah, Muhammad al-Rasul dans mon cœur. Je suis un candidat potentiel à l'ombre du trône d'Allah. Mais je dois développer une de ces qualités. Donc quand on voit, on peut se dire, mais pourquoi citer plein d'anecdotes, plein de récits? C'est des sahabas, c'est des tabi'in, on n'atteindra jamais leur niveau. Oui, on n'atteindra jamais leur niveau. Mais voyons là l'objectif. Et on a entendu expliquer ça à Saint-Clotilde, à Jib. On disait que si on prend un échantillon de croyants et un échantillon de une personne athée ou qui ne croit pas en Dieu, et qu'on essaie de prendre leur avis, ou alors on essaie de lire leur carte mémoire, etc., pour voir quel est son objectif dans la vie, quel est son rêve. Deux choses. On va dire trois. Objectif, crainte, appréhension et rêve. Tout être humain a des objectifs, quel que soit notre niveau d'âge, ou etc. Pour une personne, l'objectif, peut-être, s'il est malade, c'est de retrouver la santé, etc. Quelqu'un qui n'a pas de travail, son objectif, c'est de trouver un boulot. Quelqu'un qui n'est pas marié, c'est de trouver une femme. Quelqu'un qui est marié, qui n'a pas d'enfant, c'est essayer de, inchallah, avoir des enfants. Si mon épouse ne peut pas avoir d'enfant, faire des traînes. Bref, objectif et rêve, on peut dire que ça peut préparer, mais le rêve, c'est le summum. À quoi il aspire au mieux? Et troisièmement, quelles sont ses craintes et ses appréhensions? Qu'est-ce qui fait peur? J'ai peur que mes enfants tombent malades, j'ai peur de perdre mon boulot, j'ai peur d'être expulsé de mon appartement, etc., etc. J'ai peur d'avoir le cancer, j'ai peur de ça. Chaque personne a des rêves, a des objectifs et a des peurs, des craintes, des appréhensions. Ça, c'est humain, ça. Maintenant, ces deux échantillons de personnes doivent donner des résultats différents. Si le musulman a les mêmes objectifs que le non-musulman, c'est extrêmement grave, c'est inquiétant. Si le musulman a le même rêve, pour lui le top, la meilleure des choses qui lui puisse arriver, ce serait ça. Si c'est comme le non-musulman, c'est-à-dire avoir un joint, une villa, avec une piscine, avec une grosse voiture, avec une jolie femme, avec être heureux, avoir beaucoup d'argent, avoir tel moyen, revenu. Si c'est ça l'objectif, si c'est ça le summum de son cœur, alors là vraiment, vraiment c'est compliqué. Et les craintes, si c'est les mêmes craintes, ça traduirait également un manque de confiance en Allah et une absence de prise de conscience sur le destin, sixième pilier ou cinquième pilier du iman. Donc en lisant l'histoire des sahaba, ça nous permet de voir quel était leur état d'esprit, leur mentalité et leur état spirituel, afin qu'on les prenne comme modèle, comme exemple. Parce que ça, c'est une sunna, ça. L'être humain a besoin de repères pour avancer. On a toujours besoin d'un modèle. Et ça nous permettrait d'emboîter sur un autre point. Je parlais avec un réunionnais qui habite à Paris. Il expliquait qu'on voyait, mashallah, on va parler en un instant, là encore je me suis trompé d'objet de tartib, on voulait parler du séminaire avant, et l'erreur que j'ai fait à Saint-Denis, on a fait le programme, on n'a plus le temps, la tannée pareil. On voulait faire l'inverse, mais on n'a pas pu. En France, là-bas, on voit que les gens, quand il y a un cheikh qui vient ou quelqu'un qui fait un discours et tout, ils sont fans, mais ils sont tellement, mashallah, une motivation que voilà quoi. Ça dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Et quelqu'un m'a expliqué que, surtout chez les jeunes qui étaient un petit peu un peu loin de la religion, ils avaient l'habitude, par exemple, très souvent, d'avoir des modèles, un héros ou un machin, ça peut être les rappeuses, par exemple. Et quand ils quittent la musique, ils quittent ce genre de choses, et qu'ils viennent vers la religion, ben, ils ont toujours besoin d'un modèle. Et ils vont être fans de ce modèle. C'est-à-dire que l'être humain a besoin d'un repère pour avancer. On a besoin d'un modèle. Et dites-moi, quel est notre modèle ? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَفِزَابْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. On a, à travers le prophète عليه الصلاة والسلام, le modèle parfait. Mais si on ne l'a pas pris comme modèle, on prendra d'autres personnes comme modèle. Et voyez à travers la télévision, internet, tous les médias, tout ce que nous voyons, comment est-ce qu'on nous gave comme des oies ? Discuter, quelqu'un nous pose la question avant-hier, est-ce qu'on a le droit à manger foie gras ? Quand discussion, on dirait que c'est son fical. Son fical. En Birmanie, ils sont en train de mourir. En Syrie, ils sont en train d'être hachés, coupés. Et le monde le monde ne s'en préoccupe pas, pour ne pas dire autrement. Nos jeunes tombent dans la drogue, dans l'alcool. Il y a des choses qui se passent qu'on ne s'imagine pas. Bref, c'est un masselin, on va dire, d'accord. Le fical, cette personne, peut-on manger du foie gras ? Est-ce que c'est la question d'éthique ? Bref. Mais nous, on est comme gavés. Gavé par le dunya, avec la consommation, avec les panneaux publicitaires 4x4, avec les pliants, avec tout ce qui vous pousse à consommer. Prenez la voiture, maintenant, vous paierez dans 6 mois 125 euros par mois. Tout le monde peut le faire, tout le monde. En 4 ans, vous ne pouvez plus payer, vous êtes de le haram, de la tête aux pieds, vous ne pouvez plus payer, etc., etc. Il faut. Yani, consommation. Même si vous n'avez pas d'argent, votre compte est débitaire, vous devez consommer. Ça, c'est la société. Et la société met en avant également des hommes. Ça peut être un footballeur, ça peut être un artiste, ça peut être un acteur, ça peut être etc. Que tellement on le montre et que ça. Et puis, par le biais de la télé, par le biais de l'image qui frappe le cerveau, qui frappe en permanence, qu'à un moment donné, on finit par se dire que ces gens-là, c'est les tops. Et ces gens-là, ils ont réussi, ils sont admirés de tous. Ça veut dire que ce qu'ils font, c'est bien. Et donc, inconsciemment ou consciemment, on essaie de développer les mêmes qualités que ces gens. Allah Mustan. Comme une fois, on voit des jeunes quand ils jouent au football, ils marquent un but, ils font les mêmes gestuels, ils font les mêmes trucs et tout et tout. C'est-à-dire qu'ils voient et ils font pareil. Comme une fois, on voit des jeunes mettre des t-shirts avec écrit des noms de footballeurs d'ailleurs. Ici ou ailleurs, même Makkah, Medina, yahri. Dans les lieux saints. Ils ne connaissent pas ce que ça veut dire, ils mettent un t-shirt et écrit caca derrière. Oui, non. K-A-K-A, d'accord ? Bon, c'est pas en français, d'accord ? C'est un petit jeu de mots. Mais ça, c'est très grave. Moi, j'ai vu des jeunes qui portent des... C'est pas un péché. Va à Salat al-Maghrib, voit des jeunes, ils viennent avec Fabregas, avec des noms de footballeurs derrière. Ce n'est pas un péché, mais ça montre bien que l'objectif est atteint. Fait en sorte que ces jeunes-là développent un amour et une admiration sans borne, sans limite, pour les personnes, les icônes. Qui représente la réussite dans ce monde. Et si nous ne mettons pas en avant le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le modèle des sahaba qu'on essaie de le faire avec cette action là, on craint que les cœurs dévient et on prenne ces gens-là comme exemple. D'où l'importance d'un rappel permanent à la maison. Ça, c'est fondamental. Que dans la maison, il y ait la parole d'Allah et la parole du prophète qui soit lue, dans la langue qu'on comprend, une lecture de hadith. Une lecture de verset du Coran, de tafsir, qu'il y ait le din qui soit entendu par nos enfants. Même s'ils sont petits, mais qu'ils comprennent, qu'ils prennent l'habitude de voir, qu'ils prennent l'habitude dès leur jeune âge, de voir que mon papa, ma maman, a une admiration pour Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. que quand il parle de ses sahaba, c'est avec beaucoup de ferveur, beaucoup de passion, beaucoup d'admiration. Et que vous savez, un enfant, si dès le plus jeune âge, il voit que ses parents sont admiratifs de telle personne, ben, il va développer ça en lui. Il va grandir avec ses notions, les mêmes notions que les parents. Il y a des fois où le papa il est angoissé, la maman est angoissée, l'enfant est angoissé. Ça se voit, ça. Les enfants ressentent les sentiments des parents. Mais s'il ressent que nous sommes admiratifs de ces gens-là, nous lisons leurs histoires, nous lisons les hadiths, leurs biographies, et que pour nous, ce sont les modèles, assurément, il y aura un impact, il y aura une répercussion directe et positive sur nos enfants. On a la possibilité de contrer tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, tout ce qui se... Et je ne dirai pas d'autres mots encore. Vous voyez ce qui s'est passé dernièrement. Allah Musta'an. Il n'y a pas besoin de le dire, d'accord? Comment protéger nos enfants? Dites-moi, dans quelques années, dans les manuels scolaires, on aura clairement des discours qui vont dans ce sens. Qu'un homme se marie avec un homme, dans les dessins animés, vous aurez des messieurs qui s'embrassent. C'est comme ça. C'est un changement de mentalité qui est programmé pour que les valeurs reculent. Est-ce que c'est une fatalité? Le prophète Al-Sallam nous a expliqué que, j'allais presque dire oui, c'est une fatalité, mais pas dans le sens où on ne peut rien faire. Pour ça, il m'a dit qu'avant la fin des temps, ce genre de choses-là va se propager, va devenir normal, va se banaliser. Tout comme l'intérêt, dites-moi, est-ce que quand quelqu'un dit t'es bougla, prend l'argent, l'intérêt dit astaghfirullah, mais incroyable, comment il a pu faire ça? Du tout, c'est normal. Au contraire, quand on me dit que t'es bougla, commerçant, il travaille l'argent cash, pas un euro d'intérêt, dit Allahu Akbar, mais comment il fait? Oui ou non? Malheureusement, les réactions se sont inversées. Ça veut bien dire que c'est devenu normal, banalisé, ce n'est plus considéré comme un péché. Franchement dit, le zina deviendra normal et ce genre de choses également deviendra normal. Donc, à la fin des temps, ça prouve bien qu'on est vraiment à la fin des temps. Vous voyez, Dajjal vient vite, moi, qu'on en finisse. D'un sens, qu'on en finisse. D'accord, Allah Moustan, excusez-moi, ce n'était pas le thème que je voulais dire. On ne doit pas attendre le Dajjal, mais c'est vraiment, on touche, d'accord, la limite. Tout ce que le prophète avait annoncé comme fitna, on les voit. Maintenant, ce n'est pas une fatalité que parce qu'il y a un fitna, on va tous succomber. Non. Et c'est là que, comme on a dit tout à l'heure, quand tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Mais quand rien ne va plus, c'est là qu'on voit ceux qui ont la foi. Et le prophète nous a expliqué, dites-moi quel est le secret. Quand il y aura tous ces problèmes, tous ces fitnas, comment s'en sortir? Le hadith qu'on dit peut-être une fois dans chaque assemblée. Je vous ai laissé deux choses. C'est attraper fermement, ne lâchez pas. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer et qu'on envoie une corde ou une bouée. Il l'attrape. Est-ce que quand quelqu'un est en train de se noyer, on envoie une corde ou une bouée? Si son téléphone sonne, bon, dis donc, l'eau il ne sonne pas, mais on a des GSM qui sonnent dans l'eau. D'accord? Est-ce qu'il va dire une notification, je vais regarder qui m'a envoyé un tweet? Non. Tamassouk. Attrape, agrippe, c'est la vie. C'est un najat. C'est avec ça que tu es sauvé. Ma intamassaktum bihi lan tadillu abada. Accrochez-vous à ça, jamais vous ne serez garé. Kitabullah wa sunnati. Le livre d'Allah et ma sunna. On ne vous a pas dit de faire des choses incroyables, des trucs de malade pour devenir, retirez-vous dans les montagnes, mettez deux pièces de ihram, donnez tout votre argent, restez dans l'adoration d'Allah du matin au soir, jeûnez, qiyam, la wallah, accrochez-vous au Coran à la sunna, jamais on ne sera égaré. Même dans les fitnas de Dajjal, il y a des gens qui vont s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils restent accrochés au Coran et à la sunna. Donc ça c'est notre rôle, notre travail dans la maison, contrer tous ces fitnes qui arrivent et qu'on ne peut pas y échapper. Contré par l'apport spirituel dans la maison. Une maison où il n'y a jamais de lecture Coran, de hadith, où il n'y a pas de propagation du ilm, de ta'alim, c'est gravissime. Et qu'en même temps la télé est allumée, c'est la mort. Parce que tout ce qui sort de la télé, c'est mauvais, tout. À part, on va dire les actualités, et les actualités, c'est que kadhib. La moitié, c'est des mensonges. La moitié, c'est des faits déformés, où on met les projecteurs sur ce qu'on veut bien voir. Bref, on ne rentre pas dans ce débat. Peut-être qu'il y a quelques trucs, quelques documentaires, hein, où on voit la grandeur d'Allah, quand on voit les créatures et tout. Mais sinon, si la télé est allumée, toutes les mauvaises choses qui rentrent, l'internet, etc., etc., et que de mon côté, de notre côté, moi, en tant que papa, en tant que maman, je n'apporte pas le flux spirituel nécessaire, c'est une famille qui sombre. C'est une famille qui va être... Subhanallah, influencé par tout ce qui est mal et qui n'aura pas de quoi s'accrocher. Donc ça c'était l'objectif de ce développement un petit peu technique sur chaque catégorie de personnes, parce que le but c'est qu'on développe ses qualités et qu'on se réfère au mode de vie des sahaba pour développer les mêmes qualités qu'eux, parce que eux ils y seront, eux ils seront sous l'ombre du trône d'Allah, mais moi j'ai le droit d'espérer, et pour avoir le droit d'espérer je dois essayer de développer leur qualité. Donc on devait commencer l'autre chapitre. Après, il y avait une possibilité, on avait vu, de commencer avec les dames également. On verra s'il y a encore le temps avant le Ramadan de faire public monsieur, madame. On discutera avec Moutawalli, Inch'Allah. Donc, le prochain sujet qui, là, on va dire, qui intéresse un peu plus tout le monde, homme comme dame, c'est les gens qui s'apprécient, qui s'aiment pour Allah. Et ça, c'est pas une mince affaire non plus. S'aimer sincèrement. Pas. Amour pour Allah, parce qu'on est mu'min, et non pas par intérêt, non pas parce qu'il y a telle chose. Et ces gens-là aussi seront sous l'ombre du trône d'Allah. Donc, on va dire que, ah voilà, autre espoir possible. J'essaie de m'accrocher dans la salah. Si je suis jeune, j'essaie de rester dans l'obéissance. Et en plus, s'il y a ça, ben, mashallah, il y a 3 wagons possibles pour moi. J'essaie de développer la sincérité du cœur dans mes relations avec les gens. Vous voyez que, pour l'homme qui a le cœur attaché à la masjid, c'est le culte. C'est le ibad. Et aimer pour Allah, c'est dans le akhlaq de mu'amala, dans la manière de fréquenter les gens. Donc ça c'est kamaluddin. C'est là, c'est une fois que la religion est complète. En même temps, on essaie de perfectionner nos relations avec Allah, à travers la salah comme on l'a vu. En même temps, on essaie de perfectionner notre relation avec les gens pour Allah, en ayant un comportement correct, en appréciant notre prochain, lillah. Donc ça, inshallah, le mardi, pas prochain, le mardi d'ensuite, inshallah, on va essayer de commencer. Même erreur que j'ai fait au Latanier et autres, on voulait parler un petit peu du séminaire à Paris. C'est pas juste le but, c'est pas de faire un documentaire ou un reportage ou, non, c'est pas ça. Si je tiens à raconter ne serait-ce en 10 minutes, on voulait développer plus, mais on a déjà pris beaucoup de temps. Le but c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce que nous on n'a pas. Vous savez, les voyages, ça apporte énormément d'enseignements. Quand on va dans un pays, dans un endroit, on va auprès d'une population musulmane, du premier coup d'œil, on voit qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce que nous on n'a pas. Si en plus on est un petit peu dans le travail de la propagation, du din, bidnillah, ben on voit comment les autres travaillent là-bas, les autres, les ulama, les machinaires qui travaillent, et comment, quelle est la relation entre eux et les gens, quelle est l'attente du public, des gens, et de quoi est-ce qu'ils disposent pour apprendre, quelle est leur motivation, à quel niveau de, on ne juge pas, hein, mais à quel niveau de spiritualité ils sont arrivés, quels sont leurs objectifs, quelle est leur talab, leur motivation. Donc tout ça, on le voit du premier, en très peu de temps, sans porter de jugement, mais en quelques instants, quand on voit qu'on habitait d'un endroit pendant longtemps, et qu'on connaît notre peuple, hein, notre qaum, et qu'on voit d'autres personnes, tout de suite on voit les décalages, ceux qu'ils ont, ceux qu'ils n'ont pas. Donc si vous me permettez 10 minutes, ou alors 15 minutes, le but c'est vraiment de montrer, de voir un petit peu, ben, comparer, on va dire, hein, comparer les deux populations et qu'est-ce qu'ils ont, que nous devons essayer de développer, et qu'est-ce que nous avons, qu'Inch'Allah, et aussi ils pourront avancer dans ce sens. Alors, chronologiquement, il y a une association dans les pays anglophones, en région anglophone, c'est Australie, Angleterre et je ne sais plus l'Amérique certainement, qui s'appelle Al-Kawthar, comme le fleuve Al-Kawthar. Et Al-Kawthar organise des séminaires. Alors, séminaire, c'est pas bayan, c'est pas programme comme on fait le mardi soir. Un séminaire, c'est vraiment un stage intensif. Un séminaire, c'est réunir, le concept, c'est réunir, on a 33 minutes, c'est réunir un maximum de personnes pour enseigner un thème précis pendant 48 heures. Afin que lorsque la personne ressort du séminaire, la personne a un acquis, on va dire, solide sur un thème. Et ça, c'est un concept qu'on n'a pas ici, on n'a pas encore développé, mais l'objectif, hein, c'est de ressortir grandi de ce séminaire et de voir est-ce qu'on peut importer ce concept chez nous. Et je pense que c'est, théoriquement, c'est possible. Alors, pour l'instant, il y a eu un séminaire sur la Sira, la période Makki. Là, il y aura un séminaire au mois de juin sur la période Madani. D'accord, l'autre partie de la Sira. Il y a déjà eu un séminaire sur le Fiqh, les écoles de jurisprudence, et bien comprendre, à une époque où souvent on ne comprend plus les trucs de madhab et tout. Donc, un séminaire qui a été fait 2 mois avant, c'est-à-dire au mois de février ou mars à peu près. Et il y a eu un séminaire qui a été fait par Mouli Mohamed Patel de Saint-Pierre, que beaucoup connaissent, sur l'au-delà. Donc, ça, c'est les croyances, aqid. Et notre ami du port, Mufti Shakil Omarji, que vous connaissez également, lui, il a animé les 2 séminaires sur la Sira. Le prochain, c'est dans quelques jours. Et également un séminaire sur le mariage, le choix du conjoint, le choix de l'épouse et les relations au sein du couple. Alors, vous avez tous déjà peut-être entendu un bayan sur le mariage, oui, non? Dites-moi comment est-ce que vous, comment vous approchez, j'allais dire, vous appréhendez un bayan de Nika. Déjà, quand on voit le bouc monter mimbar, dit aïe, 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 il fait déjà ça, 40 minutes, 50 minutes. Hein? Et j'en connais, hein, qui prennent un peu plus de temps qu'on leur donne. Quand il y a d'autres, ils disent bon, lire, bon, 20 minutes, c'est bon. Parce que notre ficar, c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi notre ficar? Le gâteau. Hey! Quand on sort, si on est en retard, est-ce qu'on va gagner un gâteau ou alors on a besoin de ta case, on a telle chose, on a Ligue des Champions, on a je ne sais pas quoi à regarder. C'est très rare qu'une personne écoute un discours avant un mariage, la tête posée. Avec vraiment l'intention de comprendre, d'apprendre. Et quand j'arrive chez moi, je vais enseigner à mon épouse, voilà ce que j'ai appris concernant, je ne sais pas moi, le dialogue au sein de la famille, ou l'éducation des enfants, ou alors mise en garde contre les insultations de shaitan qui peuvent mener vers le dieu, etc. C'est rare. En général, quand on est dans un mariage, c'est comme objectif 1, qu'on termine la lecture Coran. On écoute. Deuxièmement, si n'a pas un azam, en forme. Si c'est un azam, il dépend. Un tel monde, différents cas de figure. Lui, ça chante longtemps, lui, il chantera pas longtemps. Lui, sans quelle langue, telle langue. Le bayan. 20 minutes, ou alors il va faire une heure de temps, etc., etc. Moi, j'ai même entendu, je vous assure, j'ai même entendu une fois des gens qui parlaient d'un collègue, hein, qui dit que oui, allez, quand il a le micro, pareil, un joujou entre ses mains. Il parle, il ne veut plus s'arrêter. Il y a Akhi, il t'enseigne le din. Il t'enseigne le din. Avec ce din-là, tu as le succès dans ce dunya et dans l'au-delà. Et tu oses insulter la personne, offenser la personne, dire qu'il joue. Il y en a même qui disent, ils prennent en otage les gens. En otage. Yahri, goum, rouh, rawih. Rentre chez toi. Va avec ta femme. Va avec tes enfants. Ça perd du temps, plus encore. C'est-à-dire que les cœurs, c'est maktoum. Il y a comme quelque chose qui fait qu'on se sent mal. Quand il y a trop de ta'lim, il y a trop de din et tout, on a besoin de sortir. C'est-à-dire que le cœur ne trouve pas ses aises dans la masjid. Et ça, c'est fait attention. Parce que ça veut dire que le croyant, il est dans la masjid, mashallah, il est épanoui dans la maison d'Allah. Alors, pour revenir à la question du mariage, les seules fois où on entend le discours sur le mariage, c'est justement quand il y a un nikah, et on a pris l'habitude de parler un petit rappel qui est profitable sur le mariage. Ça a duré de 20 à 30 à 40 minutes maximum. Rare qu'on arrive à une heure, mais quand on arrive à une heure, on retient pendant un an qu'un tel a fait un bayan de 60 minutes. Ça veut dire qu'on n'a pas l'occasion d'apprendre quoi que ce soit sur le mariage. Et très souvent, on est tellement stressé par le temps qu'on se limite à certains points connus. Parce que quand c'est un truc qui n'est pas connu, il faut développer, ça prend plus de temps. Alors que là, le séminaire que Moufti Shakil Duport avait fait sur le mariage, c'était, imaginez, 48 heures, deux jours. Vous venez le matin à 9 heures, samedi matin, jusqu'à 19 heures le soir. Vous revenez dimanche matin jusqu'à 19h le soir, avec des pauses bien sûr, ce qui fait un total de 14 heures de cours intensifs. Mais quand vous avez écouté 14 heures tadrib sur le mariage, le choix du conjoint, la manière de vivre avec sa femme, le akhlaq, le comportement, droit, devoir, la vie de famille, les enfants, l'éducation, etc. Ben au bout de dimanche à 18h55, je peux vous dire que vous avez un quota de ilm sur le mariage. Je ne dirais pas que vous êtes comme un alim, mais ça se rapproche. Ça se rapproche, parce que vous avez entendu au moins 50, 60 hadiths, nombre de versets, etc. Donc quand on ressort, on est presque un expert sur la question du mariage, parce qu'on a entendu énormément de choses. Donc ce concept-là, il est extrêmement intéressant. Moi, c'est la première leçon que je retiens, c'est que cette association, Al-Kawthar, qui à la base a été, on va dire, créée par un homme, un alim magnifique, c'est un homme extraordinaire qui s'appelle Tawfiq Chaudhry. Je veux vous rassurer, c'est un Indien comme nous. D'accord? C'est un Arabe, il ne connaît pas. C'est un Indien comme nous, habitant en Australie, originaire de l'Inde. Il a fait des études à Al-Madina. Et je l'ai écouté une seule fois sur YouTube. Une seule fois, j'ai vu un lien, Tawfiq Chaudhry, Suratul Duha. Parce qu'on est en train de préparer le séminaire. Vous nous avez bien expliqué qu'attention, c'est différent. Le style est différent. C'est pas comme un Dars, c'est pas comme un Bayan. Donc je dis, attends, mais différent, c'est quoi? C'est de comprendre. Et j'ai écouté le Tawfiq. Si quelqu'un a la possibilité dès ce soir, parce que demain vous oubliez, allez sur YouTube ou quel que soit le truc, et recherchez Tawfiq Chaudhry, Tafsir Suratul Duha. C'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. J'ai écouté, j'étais sidéré. 20 minutes. Scotché. Et là, on voit la différence de niveau. Quand on est loin, 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 en manière de communiquer, de faire passer le message, ils sont très forts. Mais quand je dis très forts, ils sont extrêmement forts. Et nous, on se rend compte que notre tafsir, c'est un tafsir de kitab. Eux, ils vous donnent un tafsir de kitab et un tafsir de la vie. Comment tu fais vivre ces versets dans ta vie de 24 heures? Vraiment magnifique. Je n'ai pas entendu quelque chose de ce niveau en termes de tafsir oral. audio avec un savant contemporain anglophone ou francophone. Donc, si vous avez l'occasion. Pour voir un petit peu c'est quoi le concept de Al-Kawthar, la manière de véhiculer le message, les objectifs qu'ils ont à travers chaque session. Parce que le séminaire est partagé en 14 sessions, c'est vraiment du travail de professionnel. Donc, cette association, ce qu'elle fait comme travail dans les pays anglophones, et là, ils doivent faire au Canada ou au Québec, pays francophones, etc., c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, ils ont commencé en France, à Paris, les 5, 6 séminaires, c'était à Paris, et mashallah, la deuxième leçon que je retiens, et ça, je vous le communique, hein, mon ressenti, et ce qui est commun, qu'on peut profiter, on peut essayer de travailler, en plus de le concept qui est magnifique, faudrait y penser un jour pour qu'on avance vraiment sur des points précis. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est la motivation du public. Incroyable. Les séminaires, les inscriptions commencent 3 mois ou 4 mois avant. 2 ou 3 mois. Bref, bien avant. Et 10 jours ou 15 jours avant, c'est guichet fermé, c'est complet. Si quelqu'un veut venir, c'est impossible. Il ne vous accepte même pas. Parce qu'il faut s'inscrire. Là, il y a le séminaire sur la Sira, Madani. Ils avaient loué une salle, et Allah seul sait le prix des salles à Paris. C'est des trucs de malade. Et si on voulait prendre la Nordev ou Journée Mohabbat, un idéalien, ils ont demandé 6 000 euros une journée. On n'a pas 6 000 euros. On tourne avec 2 000 euros. Et là aussi, il faut Allah, le Mujahada qu'il faut faire pour avoir un peu d'argent avec les gens, pour pouvoir faire tourner un programme pour nos shababs, nos jeunes. Bref, donc n'en parlons plus. En plus, les salles qu'ils prennent, c'est en face de la Tour Eiffel. Il y en a des quartiers, Hajib. Bref, ils avaient pris une salle qui pouvait accueillir 180 personnes. Et pendant le séminaire, le dimanche après-midi, Moufti Chardi est venu annoncer son prochain séminaire. Avant la fin du séminaire de dimanche soir, c'était déjà full. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une minute de passé. Avant la fin du séminaire actuel, le prochain est déjà book, c'est fini. Il n'y a plus une place. Et les gens étaient en colère. Ils envoient des mails, comment ça se fait, on voudrait s'inscrire, on veut, c'est toujours les mêmes et tout et tout. Hadib, c'est là on voit la motivation pour le din. Et je vais vous surprendre, les séminaires sont payants. En plus, ils payent. En plus, ils payent pour y aller. Et c'est pas 10 euros, hein. Ici, nous, quand on fait un truc, les gens disent, oui, mais tu fais ton programme là-bas, t'as pas d'argent et tout, ben, demande 2 euros de participation. Je dis, non, c'est pas possible. 2 euros, il y a peut-être, si un jeune, il n'a pas les moyens, mais il veut apprendre, il veut écouter quelque chose, s'il ne vient pas à cause de l'argent, je suis coupable. Donc, on va essayer de trouver de l'argent. Bref. Vous voyez combien ils payent pour 2 jours? 75 euros. Et si vous voulez prendre le sandwich avec, excusez-moi, c'est 10 euros en plus, 5 euros par sandwich. Ça fait 85 euros. 85 euros pour 2 jours. Ici, gratuit, on vient pas. Gratuit, on vient pas. Bien sûr, si on fait un biryani et tout, bon, les gens, ils viennent. C'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça qu'on fonctionne. Faites un programme, donnez un repas. C'est comme ça, je suis désolé. Faites un programme, donnez un repas, écrivez, un repas sera servi à la fin. Ça le comble. Même si tu n'écoutes pas, hein, le 2 du biryani, ça augmente, pas iman, mais ça augmente l'espoir. Donc, ce qui est remarquable, c'est que sacrifice de temps, 48 heures. Sacrifice financier et distance. Là-bas, les distances, ils ne rigolent pas. Hein, c'est pas comme, j'ai expliqué ça, vous êtes à Paris, vous avez besoin d'aller voir quelqu'un, vous regardez votre tom-tom, 1h30. Vous dites, mais 1h30, mon frère, je fais le toit de l'île. 1h30, je vais Saint-Pierre, je vais à Plaine des Carpes. 1h30 pour aller d'un point à l'autre. Bref, les distances sont énormes. Et il y a des gens, j'ai rencontré une personne qui était venue de Marseille. Hein, il ne s'est pas annoncé, mais il est venu de Marseille. À la fin, il m'a dit que moi, je suis venu de Marseille. Mais attendez, Paris-Marseille, c'est combien de kilomètres? Djuned, on habite là-bas. Au moins 500, non? Hein? Ah, attends, mais dis n'importe quoi. 1000 kilomètres. D'accord. Imaginez, 1000 kilomètres. Si nous, ici, on connaît qu'un tel cher qui est venu, un tel savant, qui fait programme à tampon. Il a dit, tampon? Mais tampon, mais est-ce que... Pourquoi il va à tampon? Tampon, c'est 45 minutes, il y a après. Avec la route des Tamarins. Vous roulez à 130 km/h, vous êtes là-bas en 35 minutes. Eux, ils prennent, je ne sais pas quel moyen de transport, avion ou autre chose. Marseille vient jusqu'à Paris. Il y en a qui viennent de Suisse. Il y en a qui viennent de pays frontières, francophones. Il y a les mujahada, sacrifice. Et quand un peuple bouge pour Allah, in tansurullaha yansurkum. Attendez. Vous savez, nous, très souvent ici à La Réunion, on est très fiers de ce qu'on a. Pour nous, c'est le modèle. Et on aimerait très souvent exporter le modèle. Je suis d'accord, on a des acquis qu'ils n'ont pas. Mais eux, ils ont des acquis spirituels que, excusez-moi, peu. Je ne généralise pas, mais peu d'entre nous, on a la motivation, l'envie de connaître le ilm, la science religieuse, l'envie d'avancer dans le din, on a vu, on a, c'était palpable, un tama', un raghba, une motivation qu'on a du mal à trouver. On a beaucoup de mal à trouver. Et quand ils ont annoncé, je reviens à la question du séminaire sur la sirat, 180 c'était rempli, ils étaient obligés de changer de salle, de revenir vers la salle où nous on avait fait, qui contenait 350 personnes, pour permettre aux gens de venir. Et là, je vois sur Facebook avant-hier, dit que c'est déjà plein, 350, les gens se battent pour avoir des places. Les gens se battent pour payer pour aller apprendre le din. Adib ça. Ça c'est vraiment, moi je vous dis honnêtement, c'est des gens qui ont été choisis par Allah. C'est une génération de musulmans, de mu'mines qui reviennent vers le dîn à fouadja, mais qui manquent cruellement de moyens. Donc là, on passe à ce que nous, nous avons. Ce que nous, nous avons, bi'idhnillah, c'est les acquis, les infrastructures de nos parents, de nos grands-parents. Une génération de musulmans arrivés à peu près 1870-1880 à La Réunion, ils ont patienté 10 ans, 15 ans, ils ont fait les demandes, ils ont eu les premiers lieux de culte, etc., etc., avec la mosquée de Sani 1905 et toutes les mosquées qui se sont suivies, alhamdulillah. Ce que nos grands-parents ont fait, ça c'est énorme. Et aujourd'hui, nous avons tendu les mains et nous avons tout eu. C'est un héritage. Et parfois on s'assoit dessus. C'est-à-dire on attend le temps qui passe et. C'est-à-dire que si. Il n'y avait pas eu cette génération. Dites-moi, est-ce que la génération actuelle, est-ce qu'on aurait été capable d'acheter 1000 mètres carrés au centre-ville carré piéton pour faire une mosquée? Jamais! Impossible! Les seules mosquées qui se sont construites dans les 20 dernières années, c'est la possession. Et bien, ils ont bien refait la mosquée de Saint-Louis. Et voilà quelques exemples comme ça. Mais si, bi'idhnillah, il n'y avait pas eu l'effort, le travail fait par nos grands-parents qui sont venus hein, il y a 150, 200 ans au maximum, s'il n'y avait pas eu ce travail, la Ummah islamia ici n'aurait pas eu ce niveau, on n'aurait pas eu de madaris, de masajid, de maqabir, autant de choses. L'endroit pour enterrer nos morts, pour enseigner nos enfants la religion et pour se réunir pour la salat, pour prier. Donc ça c'est nos acquis. Que malheureusement nos frères et sœurs dans ces régions, hein, en France métropolitaine, ils n'ont pas beaucoup. Ils en ont, mais difficilement et vous savez quelles sont les difficultés pour construire des mosquées là-bas et tout et tout. Donc ça c'est un ni'ma qu'on a et qu'eux n'ont pas. Et pour ça, on doit faire choukar, remercier Allah, et les utiliser dans le droit chemin avec muhabba. Que toute la communauté se mette derrière les infrastructures, derrière les personnes qui gèrent les lieux de culte, pour faire avancer la Ummah. Pour qu'on avance ensemble, pas qu'on se tienne les pattes en permanence. Et on essaie de réfléchir maintenant à d'autres moyens pour ramener encore plus les gens via le din. Continuez. On a des masajid, bien, on va terminer, Junaid, il est pressé. On a des madaris, alhamdulillah. Il faut aller plus loin maintenant. Il faut aller plus loin. Qu'est-ce que nous on a apporté à notre Ummah ici à La Réunion? Que maintenant que des gens se réunissent, disent qu'on a besoin de construire des écoles maintenant, comme ils le font à Saint-Pierre Collège musulman. Ça c'est la priorité des priorités. Fais en sorte que lorsque mon fils a 10 ans, et je l'ai bien encadré jusqu'à l'âge de 10 ans, jusqu'à CM2, et qu'il passe en 6e, que mon éducation ne soit pas, n'explose pas quand il rentre en 6e. Que tout ce que je l'ai appris, comment je l'ai coucouné, je l'ai enseigné le din, ta'alim à la maison, etc., encadrement religieux, papa, maman, quand il arrive au collège, qu'il se retrouve avec d'autres personnes, mauvaise influence, et là on n'y peut rien, et qu'il commence à toucher la cigarette, puis la drogue, commence à boire de l'alcool, il sort avec des filles, il fait déjà l'adulté à l'âge de 12 ans, 13 ans, et je ne sais rien. Parce que mon enfant, c'est mon enfant, il fait hafez le Coran, et ce petit Coran, il marche là, il monte, il sonne, on a l'impression que c'est un ange, et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe par derrière. Construction d'école. Et là-bas, ils le font. Ils en ont. Collège musulman, etc. Ils en ont. Lycée musulman, même, ils en ont. C'est-à-dire, vos enfants sont dans un environnement protégé. Maintenant, le professeur qui enseigne, ça peut être un musulman, non musulman, c'est pas grave. Mais que dans un endroit où il n'y aura pas de péché qui va être accompli, on essaie de protéger au maximum. C'est ce qu'on peut faire. Et puis, c'est dans les mains d'Allah, c'est. Beaucoup de gens disent, mais tawakkal ala Allah, fais doigt mon enfant. Fais doigt mon enfant, m'envoyer dans un endroit de Jahannam. Dans un endroit, il y a les fitnas partout. Quand je passe près de lycée et de collège, je vois un peu les jeunes qui sortent. Je dis, on a eu l'occasion de faire cours d'un lycée, je dirais pas le nom, c'est privé. Mais c'est pire que ce que vous pouvez imaginer. Et moi, je ne peux pas concevoir qu'un jeune homme normalement constitué puisse résister au fitna. C'est pas possible. À moins qu'il soit fort, qu'il soit très fort. Mais être dans un collège, dans un lycée, avoir autant de tentations y résister, je vous dis clairement, sur le papier, c'est pas possible. À moins que vraiment, il ait quelque chose en plus, qu'il ait été protégé, choisi par Allah. Donc, notre travail à nous, on voit qu'eux, ils n'ont pas beaucoup d'infrastructures, mais ils sont en train d'avancer dans l'éducation. La tarbiya, le ta'lim, ça c'est la base. Et fait en sorte que l'éducation, parce qu'on veut que nos enfants deviennent des médecins, des avocats, des chirurgiens, je ne sais pas quoi, tous les métiers qui, alhamdulillah, font pour eux, réussite professionnelle, personnelle, ils font avancer la oumma. Mais il faut que ce soit dans un cadre où ils restent dans un environnement protégé. Eux, ils sont en train d'avancer là-dessus, et nous, on est en train d'émerger un petit peu, mais ça doit être une priorité pour les personnes qui vont prendre les rênes de la oumma bientôt, avec tous les changements qu'il y aura, ça doit rester une priorité. Donc deux points, leur motivation, le concept et les infrastructures. Ce que, on va aller un petit peu plus vite, ce que j'ai trouvé admirable également, c'est le respect qu'ils ont pour les enseignants, les chouyours. Ici on appelle Morana, là-bas ils appellent les chefs, les chouyours, mais quand on dit chef, c'est pas la même terminologie qu'ici, c'est vrai, c'est l'enseignant, d'accord? Tout comme à l'époque on parle de chef, c'est muhaddith. Alors, le respect, c'est un respect du ilm, pas de la personne. Et ça j'apprécie. Très souvent ici on a un respect de la personne. On l'appelle Morana, on l'appelle Morlui et tout, mais on va l'honorer. Hein, on l'honorer de quelle manière? En l'appelant par un titre. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'appeler quelqu'un Morana Ibrahim plutôt qu'appeler Ibrahim? Pour moi, c'est une aberration, ça ne sert strictement à rien. Le plus important, c'est respecter son ilm. S'il te dit quelque chose, c'est que ça vient du Coran, de la Sunna et qu'il y a un bien dedans. Respecter sa science, pas la personne, respecter les paroles qu'il dit et prendre considération. Très souvent, les gens, ils entendent les ulama dire déjà, ouais, mais ça, ben, n'est que pas rien, ça. Ah, ben, n'est que n'est pas, ça ne vit pas dans notre société, il ne comprend pas. Ya, akhi, ça, c'est kalamullah, kalamur rasoul. C'est ça que tu dois respecter. Maintenant, après, si tu, comment tu l'appelles, peu importe. Respecter un savant, c'est pas quand il y a un rassemblement religieux, tu lui donnes à manger la dobe-vou alors que d'autres, ils mangent dalle. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas de clergé dans la religion. Respect du savant, du cheikh, c'est respect de ce qu'il te propage et prendre considération. Ce qu'il est en train de te dire, c'est haq. C'est véridique. Ça vient de Coran, ça vient de la parole du Prophète. Et là-dedans, il y a un khair, il y a un bien pour moi. Et méditer et prendre en considération. Et ça, là, on a vu. Vous savez, entre les différents programmes, les sessions qui duraient une heure à peu près, on avait des pauses. Et moi, je faisais en sorte que pendant les pauses, je m'éclipsais. On avait une petite salle pour se reposer. Je partais pour prendre un peu de force, manger, boire un petit peu. Mais si vous restez, vous êtes submergé. Les gens, ils viennent vous poser des questions, ils vous posent des questions, ils n'arrêtent pas, ils ne vous lâchent pas. Et ça, c'est adjib, c'est magnifique ça. Autant de motivation, vraiment, c'est quelque chose d'énorme. Et le respect qu'ils ont pour celui qui enseigne, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Ce qui m'a marqué également, c'est pour revenir à l'association Al-Kawthar, j'ai vu des gens bénévoles, ils font un travail énorme. Ici aussi, on a des bénévoles qui font un travail énorme. Mais adjib. Et surtout, ils font un travail extraordinaire dans un contexte très difficile. Hein, ceux qui ont été en métropole, les jeunes qui ont habité là-bas, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Je vous dis, on est parti à Paris, on a pris le vol Dubaï-Paris. D'accord? On est passé par Dubaï. Et quand vous êtes dans l'aéroport, vous venez Dubaï, vous êtes aux Émirats Arabes Unis, à Emirat, Emirat al-Muttahida. Vous n'êtes pas en Angleterre ou en Australie ou ailleurs. Non, vous êtes dans un pays arabe. Vous êtes dans le terminal où vous embarquez la 380 pour prendre le Dubaï pour aller Paris, et majoritairement c'est des gens, c'est des Français, et là vous voyez déjà les regards. Chose que nous, Réunionnais, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude d'avoir des regards aussi perçants, aussi persistants, vous comprenez, des regards racistes clairement, d'accord? On n'a pas l'habitude, on ne supporte pas ça parce qu'on ne le voit pas. Et là c'est déjà un aperçu de ce que nos frères et sœurs vivent dans ces pays. Et en discutant avec les gens, on dit que le nombre de cas de sœurs qui portent le châle, qui se font agresser, insulter, une dame qui vient, qui vous insulte dans votre visage, que vous foutez là, c'est notre quartier, sortez de là, bande de je sais pas quoi, qui vous crache, il vient, il crache, plante des trucs comme ça. Celui qui, dans un contexte comme ça, il s'accroche au din, avec sa barbe, avec ses vêtements, avec ses cheveux couverts, vraiment, vraiment, waliyullah, c'est un ami, un proche d'Allah. C'est vraiment un degré de iman, ajib. Parce que vous savez qu'en fonction des circonstances, l'action elle a une valeur. Vous vous rappelez, chaque fois qu'on dit ça, à Makkah, Madina, contre le regard, c'est simple, c'est pas simple. C'est simple, les femmes sont couvertes, il n'y a rien à regarder. À la Réunion, c'est compliqué. Donc, en fonction du contexte, le mujahada est différent, donc l'action a une valeur différente. Mais là-bas, vraiment, celui qui reste dans son din, et le nombre de sœurs, bien là qu'on voit, mashallah, déambuler dans les rues de Paris, hein, on n'est pas dans les quartiers où il n'y a que des populations musulmanes, quels que soient les endroits, je vous dis franchement, c'est des gens qui ont été choisis par Allah, et rester ferme de son din, dans un cadre, dans un contexte comme ça, moi, ça m'impressionne. Parce que le peu de temps qu'on a fait, on a vu déjà depuis Dubaï, et quand vous arrivez à CDG, à Charles de Gaulle, et quand à un moment donné, je me disais qu'il vaut mieux ne même pas regarder les gens. Trace tout le chemin, hein, c'est l'occasion de baisser le regard, même devant monsieur, baisse le regard, pas par tentation, pas parce que la loi a été votée, mais baisser le regard, parce que au moins on n'aura pas affronté ces regards méchants. Et c'est rare ici qu'on ait un regard méchant par rapport à la barbe et tout, c'est très rare. Mais là-bas, c'est le quotidien. Et vraiment, quelqu'un qui reste attaché à son dîn, mashallah, c'est un sacrifice énorme que nous, on ne peut pas comprendre. Et quelqu'un qui habite à Makkah, Medina, ou dans les lieux ou pays musulmans, il ne peut pas imaginer ce que ces gens sont en train de vivre. Et dans ce contexte difficile, ils avancent. Et je vous dis, j'ai croisé des gens, des responsables d'associations qui gèrent plusieurs associations en même temps. On a rencontré des gens, on parlait de motivation, on essaie d'avancer un petit peu. Le premier jour de séminaire, on a commencé à 9h, avec des pauses, bien sûr, pause déjeuner, pause salah. On termine à 19h. Et à 19h, il y a Cheikh Mohamed Patel de Saint-Pierre qui faisait un programme ailleurs, à Évry. Je ne sais pas ça à combien, quelle distance de Paris, à Évry. Donc c'est loin, d'accord. Et il y a des gens qui ont déjà assisté de 9h à 19h. Ils prennent leur voiture, quel que soit le transport. Ils vont à Évry, ils vont écouter un autre programme jusqu'à, je ne sais pas, 21h, 22h. Mais comment ils font? Nous, dépasser une heure, c'est des générations, vos grands-parents, ils sont maudits par tout le monde. Dépassé de quelques instants, les gens ne comprennent pas pourquoi il fait long, pourquoi il nous fatigue, pourquoi ils nous prennent en otage. J'ai vu des gens, il y a des fois où je me disais, est-ce qu'ils respirent? Est-ce qu'ils sont vivants? Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils sont assis là, puis 9h, ils vous écoutent. Vous faites la pause, si vous ne faites pas de pause, ils ne font pas de pause. Ils ne vont pas aux toilettes, excusez-moi. Oui, il y a des moments où ils vont, où je ne remarque pas. Ils ne sortent pas. Si c'était nous, tous les 5 minutes, on sort comme si un travail urgent, enfin, je reviens dans un instant, juste pour aller prendre un peu l'air dehors. Ils sont là, attentifs, ils prennent des notes. Il y a un classeur, ils donnent un stylo, un constat bien fait, ils prennent des notes, ils écrivent, vous parlez, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent. Hajib, ils posent des questions. Motivation, pas la envie de connaître. Et j'ai dit le mot question, et quand ils vous posent des questions, on ne prépare au moins, frère. Il ne vous demande pas quelles sont les obligations du vaudou, combien de rakat comporte le fajr, etc. Là, wallah, il faut, hein, ajib. Des questions sur le taqdir, destin, des questions sur les asma wa sifat, les noms, les attributs d'Allah, des questions d'un certain niveau, hein, mashallah. Ça veut dire qu'il y a istiadad et il y a tout ça. C'est des gens qui lisent. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de livres traduits en français, livres religieux. Ici, il n'y a pas beaucoup de vendeurs de livres, etc. Là-bas, il y a plus. Mais même si on en avait une bibliothèque, je ne pense pas qu'on aurait une bibliothèque. Des gens qui lisent énormément. Vous commencez un hadith, ils vous le complètent. Ici, je ne sais pas, d'une assemblée, on cite un hadith en arabe. Bon, voilà quoi. Hein. Ils sont capables de compléter, ou alors ils vous donnent le sens en français. Il y a des gens qui apprennent en permanence, séminaire ou pas séminaire, ils sont toujours en train, mashallah, de se documenter, d'apprendre le dîn, d'apprendre la religion. Les échanges, et ça, c'est un concept également que, si je le cite, c'est qu'on a besoin de travailler ça. Dans les prochaines générations, si on n'a pas ça, on est mort, on est cuit. Tant qu'on reste dans le monologue, le moulissab, le imam parle et les gens écoutent, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Ou alors on avancera, mais dans certains domaines. Dans un séminaire, dans une session d'une heure, il y a 45 minutes où on parle et 15 minutes pour les questions-réponses. C'est-à-dire, pour eux, c'est quelque chose de tout à fait normal que quand le cheikh a parlé, à un moment donné, il y a les questions. Et ici, chez le Moana, il dit qu'il ne faut pas poser de questions parce que dès l'instant, on doute de ce qu'il a dit. C'est pas, le but, ce n'est pas de douter, le but, c'est de bien comprendre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, expliquer. Et en termes de rigueur dans les sources, mashallah, hadith wa la haraj, les gens qui te disent clairement, mashallah, barakallahu fik, pour ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut avoir les sources? Allez, abonnez mon frère. Il faut que tu aies des sources, ça soit le Bukhari, soit le Muslim, soit le Nimaja, Ibn Daoud. C'est pas que Naim Bouzouk avait dit d'un pays. Il croit qu'il a dit. Peut-être qu'il n'a pas dit, mais s'il n'a pas dit, c'est moi qui dis. Ça marche pas, ça. Il faut vraiment, c'est kalamullah, kalamur rasoul. Ça, c'est notre dîn, ça. Les deux choses, restez accrochés, vous ne serez jamais égarés. Parole d'Allah, parole du prophète. Il vous demande. Et on a eu un échange par un concept qui s'appelle le webinar. Je ne savais même pas que ça existait. C'est comme un Skype. Vous connaissez Skype? Un Skype géant avec 100 étudiants. 100. Mais c'est pas audio, hein, c'est par chat. D'accord? Il pose des questions. Il y a quelqu'un qui, au début, c'était un missile, m'a demandé, on vous a écouté pendant 2 jours, j'aimerais avoir les livres, les références, toutes les références sur lesquelles vous êtes appuyé pour le séminaire. Il veut le nom des livres pour voir est-ce que c'est Mu'tamad ou non. Mashallah, sans problème. On n'a rien à cacher. On dit voilà, il y a tel livre, Qurtubi, Baydawi, Ibn Kathir, etc. Mais mashallah, ça prouve qu'également dans le traitement de l'information, ils veulent, mashallah, de l'authenticité. Et ça, c'est important. Alors moi, ce que je voulais parler, c'est les échanges. Ça, c'est très important. On avait commencé un concept, Joanie Mohamed, D'accord? D'autres qui ont fait avant nous aussi, bien sûr, avec les dialogues entre les jeunes. On démarre depuis le matin jusqu'à 16h. On parle très peu, mais on écoute. Et on répond, on essaie de montrer notre présence, forger un lien avec le public, répondre aux questions. Les gens, très souvent, à la fin de la manière, ils ont des questions, mais ils n'osent pas demander. Parce que ce n'est pas l'habitude des gens de demander. Et quand on demande, on peut prendre mal que quoi? Ils doutent. Ils pensent que je ne connais pas, ne m'a pas bien apprendre comme tu es madrissa ou autre chose. Non, ils veulent connaître, il y a Harry. Et ça, c'est quelque chose d'intégré. Et on a besoin de travailler ça. Il y avait même une séance de questions-réponses uniquement pour les dames. Alors là, petite parenthèse, hein, sur 350 personnes, il y avait à peu près 200 dames. Si c'est pas plus. Mais là aussi, avec un haya, une pudeur, ajib. Jamais une dame n'est venue me voir. Ils savent que ça c'est haya, ça c'est alors qu'on est dans une même salle, d'accord? Mais jamais une dame n'est venue. Pose question, oui, mais venir voir, parler, là, wallah, abadan. Et ça, machallah, c'est bien aussi, c'est également quelque chose d'admirable. Et donc, il y avait même eu une séance de questions-réponses où tous les messieurs sortent, il n'y avait que un ou deux organisateurs pour pas qu'on soit seul aussi, pour que les dames posent des questions. Et là aussi, suivez les questions des dames. C'est encore plus compliqué que les questions des messieurs. Plus complexe, je veux dire, dans le sens plus pointilleux. Il y a encore plus de motivation. Et si vous ne les arrêtez pas, les hommes comme les dames, ils peuvent poser, c'est pas 48 heures, c'est des mois et des mois. Ils ont une motivation, une envie de connaître l'islam. C'est ajib. Et je répète encore, dans un contexte, dans un endroit où pratiquer l'islam est devenu difficile. Vous savez que la France, hein, si on regarde un peu les statistiques, c'est devenu un des endroits où il est le plus difficile à vivre sa foi de musulman. Un des pays les plus islamophobes, je pourrais dire. Où il y a de plus en plus de difficultés à être musulman. Et donc, dans un contexte comme ça, ça ne veut pas dire que tous les Français sont islamophobes, je ne dis pas ça. Mais quand on voit certaines choses, on se dit que vraiment, ça devient de plus en plus difficile. Mais ne vous inquiétez pas, il y a grand espoir. Qui seront les grands amis des musulmans à la fin des temps? Les nasars, les chrétiens. Donc, les choses changeront à la fin des temps. Lorsque Al-Mahdi sera là, lorsque ça, les nasars, les chrétiens, ce seront le bras droit, hein, marchant ensemble avec les musulmans à la fin des temps. Mais ça, c'est une autre époque. C'est autre chose, d'accord? Et je terminerai avec une image. Une image. En allant vers cet endroit, c'est un théâtre, hein, d'accord, qui s'appelait Adia. Un nom arabe aussi, Adia, Ajib. En allant vers cet endroit, on passe par les Champs-Élysées. Vous connaissez le petit créole, il voit Champs-Élysées, première fois, il y a Champs-Élysées. C'est très beau. Par contre, ils prennent les ronds-points comme des malades là-bas. Champs-Élysées, c'est impossible. Vous faites un accident, priorité à droite, c'est même pas de le rond-point. Bref. Alors, passant les Champs-Élysées, passer près de la Seine, bon, on est un petit peu admiratif. Moi, c'est la première fois que je vois les Champs-Élysées, d'accord? Je regarde ça et tout, je dis, Mashallah. Enfin, j'ai pas dit Mashallah. J'ai dit, c'est bien, c'est beau. Je préfère voir la Kaaba seulement. Hein. Et ce qui m'a impressionné, c'est au niveau des Champs-Élysées, jusqu'au théâtre, c'est à peu près 2 ou 3 minutes. Le nombre de dames en châle qui marchent pour aller vers le séminaire, je me dis qu'Allahu Akbar. Ça, c'est wa'dullah, promesse d'Allah. On est où? Dites-moi. On n'est pas à Jeddah, on n'est pas à Riyad, à Makkah, à Medina. On n'est pas à Damas, on n'est pas en Irak, on n'est pas. On est à Paris. Capitale de je ne sais pas quoi, tout ce qu'ils aiment bien, les arts ou la culinaire ou le. Bref. Ce qui forge l'admiration de presque le monde entier. Quand on dit Paris, c'est vraiment le summum dans la culture, dans l'humanisme, etc., etc. D'accord? Et dans un endroit comme ça, près des Champs-Élysées symboliques, autant de dames, mashallah, les cheveux couverts, qui vont apprendre le din. Ajib. C'est exactement, et en plus c'était du tafsir, je n'ai même pas dit le titre, excusez-moi, c'était le tafsir de Surah Taha. Et l'histoire de Moussa alayhi salam à travers la Surah Taha, le son de Iman. Et les gens, ils vont à cet endroit pour écouter la parole d'Allah et comprendre la parole d'Allah, en tirer les istinbat, les ahkam, pour mettre en pratique. C'est exactement, ça j'ai dit à ces gens, vous êtes en train de faire la même action que les sahaba qui allaient dans la madrasa de l'Al-Arqam et l'Arqam, radiallahu anhu, pour écouter la révélation que le prophète, alayhi salatu wasalam, recevait tous les jours à Makkah. Le prophète se réunissait à cet endroit, ce jeune homme qui avait donné sa maison, hein, on va dire, pour tuer les sahaba, le prophète sallam, où le prophète expliquait qu'est-ce qu'Allah a révélé, il expliquait les versets, parce que vous savez, les sahaba, ils ne dépassaient pas 10 versets sans comprendre, mettre en pratique. D'accord? Et ces gens-là, ils sont initiés de ce but. J'ai dit que c'est exactement ça. Dans un contexte difficile, les gens, ils vont dans un endroit pour écouter kalamullah et comprendre qu'est-ce qu'Allah me dit à travers tous ces ya ayyuhalladina amen. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et ce contraste qu'il y a entre ce lieu phare en termes de dunya, Champs-Élysées, etc., etc., et voir le nombre de dames qui accourent pour écouter la parole d'Allah, ça me rappelle ce que notre prophète, alayhi salatu wasalam, avait dit après Taïf. Il avait dit que je jure par Allah que ce dîn va arriver dans toutes les contrées du monde. Et les Quraysh, ils ont entendu ça, ils disent, mais il ne comprend pas. En ce sens, c'est moi qui retraduis, hein. Il ne comprend pas. Il a été voir les plus proches, nos voisins, les premiers voisins des Ahl Makkah, des Quraysh, et qui les Banu Thaqif, de Taif, à 100 km. C'est les plus proches de nous. Nos propres voisins, il n'a pas pu convaincre. Il n'a pas pu convaincre nos propres voisins de venir vers l'islam, vers sa religion. Et il parle de l'Occident, de l'Orient, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, n'importe quoi. Et ça c'est tahqiq, wa'adullah. Ça c'est la concrétisation de la promesse d'Allah par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce dîn c'est haqq. Et le haqq, la vérité, ça touche les cœurs. Quand Allah voit la lumière, le vent de Hidayah, ça va, ça se propage, et ça ne regarde pas l'islamophobie, ça ne regarde pas le contexte. Quand Allah voit la guider la Hidayah, mashallah, bidna, ça touche les cœurs, et ça c'était vraiment quelque chose d'énorme. On terminera avec, j'ai dit c'était le dernier, l'humilité des gens. Il y avait dans l'assemblée, il y avait des personnes, je ne savais pas c'était qui. Et nous, quand on a une personnalité en général, on connaît ses mana, Bouzlou qui est là, et tout le monde sait qui. Il est là, et on met en avant. Il y avait Al-Kanz. C'est pas n'importe quel Al-Kanz quand même, le site Al-Kanz. Je le connais Al-Kanz. Est-ce que vous connaissez autre chose que Football 365 ou d'accord? Al-Kanz, c'est vraiment un référent en France. Le gars d'Al-Kanz était là. Et au premier jour, il y a quelqu'un qui me bombarde de questions complexes. Je dis, mais c'est qui ce gars-là? Il a un sacré niveau, sans savoir. Et à la pomme, il m'a dit que lui, c'est Al-Kanz. Ah, maintenant, ça se comprend. D'accord? Et une humilité, accessibilité à Ajib. Il y avait également une personne en or, Mohamed Marwan Mohamed, président du, enfin, représentant du CCIF, Conseil français, enfin, je n'aime plus les termes, contre l'islamophobie de France. Le Conseil contre l'islamophobie de France. C'est vraiment quelqu'un qui voyage deux ou trois fois par semaine. Il va au Oslo, il va à tel endroit, et leur association est reconnue même par l'ONU. Pour lutter contre l'islamophobie en France. Marwan Mohamed, sur Facebook, il est partout, mashallah. Mais des gens d'une simplicité, tawadu, d'une humilité, alors que c'est des gens qui font des conférences devant des centaines de personnes, trois fois par semaine. Là, au moment où je parle, il est au Kosovo, pas au Kosovo, je ne sais pas dans quel pays, je crois que c'était au Kosovo, en Serbie ou au Kosovo, un endroit comme ça, fait une conférence. Le jour où on a quitté Paris, il m'a dit ce soir, je prends l'avion, je vais à Oslo. C'est des gens qui, mashallah, sillonnent l'Europe pour des conférences sur le dîn, la religion, sur le droit du musulman, etc. Et des gens qui viennent à votre programme comme un enfant qui vous écoute avec autant de motivation qu'un jeune. Mashallah, cette tawadu, cette humilité, mashallah, cette disponibilité, c'est vraiment, c'est des gens qui ont été choisis par Allah. On a des acquis, ce qu'on a. Eux, ils ont des acquis, ils sont en train de développer des acquis, ils ont une motivation, et on a besoin de puiser de cette motivation, de les prendre comme exemple, d'essayer d'éveiller un peu nos cœurs, notre iman, notre envie d'avancer de le din, pour inshallah, hein, voilà, ne pas perdre du temps. Vous savez, il y a des fois où Allah choisit des peuples. Et quand un peuple il fait preuve d'ingratitude, il ne veut plus avancer, ben Allah choisit d'autres personnes pour faire avancer le dîn. Et ça, c'était comme ça dans toutes les générations. Il y a une époque où ceux qui ont fait le plus de khidmat de dîn, c'était les Arabes. Après, il y a une époque où ceux qui ont vraiment fait le khidmat de dîn de manière extraordinaire, c'était les Russes, Bukhari, Muslim, tous ces grands narrateurs de hadith, c'est de la région de Bukhara, dans cette région du monde. Donc, il y a des moments où Allah choisit des populations pour faire avancer le dîn. Ce qu'on a vu avec ces gens-là, mashallah, c'est Bushra. Et en plus, comme les dames sont énormément intéressées par la religion, par le dîn, par le savoir, c'est porteur d'espoir, parce que ce sont les femmes de demain, les épouses, les mamans de demain, et on a grand espoir qu'Allah fait souffler le vent de la guider chez ces personnes. Et ce qui est remarquable, c'est que leur discours, j'ai écouté pas mal de discours d'Al-Kawthar, c'est vraiment un discours du juste milieu. Il n'y a pas d'extrémisme, il n'y a rien. C'est vraiment une religion. Il parle souvent d'islam de France, d'accord? C'est vraiment un islam que tout le monde peut pratiquer. Et qu'on peut pratiquer avec l'entente cordiale, muhabba avec tout le monde, sans prise de tête. C'est vraiment un modèle de pratique, vraiment quelque chose de magnifique. Voilà. Donc ça, c'était quelques petites impressions qui me reviennent par rapport à ce déplacement, par rapport à ce séminaire. Et également, alhamdoulilah, c'est le troisième réunionnais. Enfin, il y en a deux qui sont installés là-bas. Et ça, ça nous fait réaliser également qu'on a beaucoup de chance, je ne parle pas de moi ou de ces gens-là, d'avoir des savants à la Réunion. On peut avoir des gens qui parlent de la religion, mais quelqu'un qui a des bases, qui a étudié, nous on en a tellement, il y a des jeunes qui rentrent, dans la Ramadan, il y en a qui vont rentrer, ils n'auront pas de travail. C'est clair, ils n'auront pas de travail. Parce que c'est book, c'est saturé, il y a plus d'arrivées que des départs en retraite, et on ne sait plus quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire de ces gens-là, de ces jeunes qui viennent avec des diplômes de alim, qui ont fait 6 années d'études de sciences religieuses. Mais c'est un grand ni'ama. C'est un grand ni'ama, on doit faire qadar, on doit prendre considération de ça. Et maintenant, voir, on a des jeunes qui sont là, qui ont les diplômes. Maintenant, il est grand temps de passer à autre chose que l'enseignement, la madrasa et le moussalla pour officier. Il y a assez de gens qui font ça. Essayez d'ouvrir des marakis, des markaz, avec les endroits où on traduit des livres. On en a grand besoin. Aïb, Abu Daoud n'est pas traduit, Nasaï n'est pas traduit, Tirmidhi n'est pas traduit. Imam Ahmed, Sunan n'est pas traduit. Muwatta, je crois qu'il est traduit. Les seules grandes compilations de Bukhari, et je ne me trompe pas, Muslim est traduit en français. Le seul compilation, seule compilation de tafsir traduit en français, Ibn Kathir. Et le reste. Jusqu'à quand est-ce qu'on aura besoin de personnes pour nous amener vers le ilm? On a besoin de savants, mais on a besoin également de support. Donc je pense que ça, c'est également le défi. On a énormément de savants, il faut les utiliser pour d'autres choses que ce qui est le classique, on pourrait dire. Et remercier Allah pour ce ni'ama qu'on a. Donc ça, c'était quelques impressions. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder de leur qualité et de leur accorder de ce qu'on a, inshallah, et que la Oumma avance vers le dîn d'Allah, avance vers le haq avec l'authenticité malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Ta'ala nous tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et accepte les efforts de chacun. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.